quand le directeur de l'époque m'a dit que je pourrais ne rien faire d'autre que de rester sur le chantier et de rester ouvrier, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une distorsion entre mes besoins, entre mes envies et entre le fait que je voulais développer quelque chose de plus grand, que ça allait dans la continuité. Je savais que j'allais faire quelque chose de bien, je savais juste pas quand. Ce jour-là, quand j'ai démissionné, je me suis dit que j'allais avoir une voie toute tracée, mais surtout une voie différente. J'ai emboîté dans le monde de l'immobilier et de la finance. Finalement, aujourd'hui, je me rends compte que c'était une force et une chance. C'est grâce à lui que je suis là avec toi aujourd'hui.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence.
Salut Anthony.
Salut Alec.
Comment vas-tu? Ça va?
Ouais, ça va très bien, je te remercie, et toi?
Eh bien écoute, en pleine forme, très content de t'avoir ici sur le podcast. Anthony, on se connaît un petit peu maintenant, c'est pas la première fois qu'on a l'opportunité d'échanger, bien au contraire. Je vais rapidement te présenter comme à chaque fois et puis on va pouvoir directement enchaîner. Je sais que cet épisode va être très riche et très intéressant pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. Tu as fondé le groupe Segone il y a 9 ans, groupe d'une quinzaine d'entreprises actives dans les secteurs de l'immobilier et de la finance. 8 ans d'expérience dans l'immobilier, gérant un portefeuille de plus d'une centaine de logements en location aujourd'hui. Tu es à la tête de diverses sociétés spécialisées dans le courtage immobilier, l'ingénierie financière et l'achat-revente. Tu as lancé G2IAR, un fonds d'investissement spécialisé dans l'immobilier, avec pour objectif de démocratiser l'accès au monde des marchands de biens et d'offrir des solutions d'investissement à forte rentabilité. Et tu as un objectif assez particulier, on en parlera, d'atteindre les 100 millions d'euros de liquidités en restant indépendant et sans employé de salarié. Donc, je pense que là, ça attise la curiosité justement de la plupart des gens qui nous écoutent et on va traiter ce sujet. Mais avant ça, j'ai envie de mettre en lumière encore une fois un de nos auditeurs, Jerry, cette fois-ci, qui nous dit « Merci pour ces contenus, Alec. Plus les épisodes passent, plus on apprend des skills et des tips pour se construire en tant qu'entrepreneur. Merci à vous pour vos différents avis et commentaires sur vos plateformes de streaming préférées, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcasts ou d'autres. N'oubliez pas de mettre les 5 étoiles. Vous êtes énormément à en mettre à chaque fois et ça permet de contribuer à la mise en avant du podcast. » Anthony, commençons dès à présent. On va démarrer par le commencement, donc les débuts. Avant d'en arriver ici, là où tu en es, tu étais chef d'équipe dans le domaine du bâtiment. Quel a été le switch pour te lancer dans ce secteur plus spécifiquement et notamment dans l'investissement et l'entrepreneuriat?
Eh bien, c'était hyper simple déjà. Merci à toi, Alec, de me recevoir aujourd'hui. Moi, je suis un grand adepte puisque j'essaye d'optimiser au mieux mes trajets en voiture et je suis souvent en déplacement. Donc, j'ai souvent l'occasion de t'écouter ou de te voir avec tes différents invités. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici et d'être dans le même moule, en tout cas entrepreneurial, de toutes les personnes que tu as interviewées ici sur Le Déclic. Donc, merci à toi. Et oui, pour revenir sur ce parcours, si tu veux, moi, j'étais déjà pas très, très bon à l'école. Et en plus, j'aimais pas ça. Donc, j'ai vite dû arrêter aux alentours de mes 16 ans. Sauf que je viens d'une famille, si tu veux, qui n'aime pas quand on fait rien. Donc, j'ai dû tout de suite commencer à travailler. Et c'était là une première force. C'est que j'ai commencé à travailler avec mon père dans une société du bâtiment. Donc, de mes 16 ans à mes 18 ans. Et je me suis vite rendu compte que ça me plaisait pas, puisque de 17 à 18 ans, j'étais déjà chef d'équipe. Et je me suis vite rendu compte que ça me plaisait pas. Donc, à ce moment-là, on était en 2014. J'ai voulu, si tu veux, prendre un rendez-vous avec mon directeur de l'époque pour lui proposer de faire une formation complémentaire pour passer conducteur de travaux, pour toujours rester dans la même société, mais pour être conducteur de travaux et non plus sur les chantiers. Et c'est là qu'il m'a dit que je pourrais jamais le faire parce que j'avais ni les diplômes, ni pour lui, en tout cas, les compétences nécessaires et que je devrais rester sur les chantiers toute ma vie. Donc, il avait aucune solution à m'accorder. Moi, j'étais allé préparer cet entretien-là avec dans l'idée que si ça pouvait pas se faire, je lui proposerais ma démission sous 6 mois puisque je voulais pas les mettre dans l'embarras. Je voulais qu'ils aient la possibilité de trouver quelqu'un en remplacement puisque j'ai toujours été quelqu'un de correct et de droit dans mes bottes, si tu veux. Sauf que ça s'est totalement passé différemment puisqu'il m'a dit que si je voulais démissionner, il fallait que je le fasse le jour même et qu'il n'y avait pas forcément besoin d'attendre ces 6 mois. Donc, ça ne s'est pas très bien passé. Mais c'est vraiment ce jour-là, si tu veux, que j'ai eu le premier déclic et qui a fait que ensuite j'ai emboîté dans le monde de l'immobilier et de la finance plus particulièrement, puis dans l'entrepreneuriat. Mais c'est à ce jour-là, quand j'ai démissionné, que je me suis dit que j'allais avoir une voie toute tracée, mais surtout une voie différente, puisque ce directeur de l'époque ne m'a pas laissé le choix. Donc, c'était un bien pour un mal. Quand je suis parti, ça m'a tout de suite paru bizarre, ou en tout cas, J'ai eu peur de la suite, mais finalement, aujourd'hui, 8, 9, 10 ans après, je me rends compte que c'était finalement une force et une chance qui m'est virée sur le champ, si tu veux.
Complètement. Donc finalement, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment cru en ton potentiel et n'a pas voulu te donner sa chance, qui a créé une sorte de frustration chez toi et tu t'es dit
exactement.
Bah, ok, on ne veut pas me laisser ma chance, je vais me créer moi-même ma chance.
Exactement, c'est ça, parce que moi, ça fait longtemps, et on pourra certainement échanger sur ce point-là juste après. Je n'avais pas forcément de vision ni de métier bien prédéfini. Je voulais juste, parce que je viens d'une famille qui n'en avait pas forcément beaucoup, je voulais juste gagner de l'argent, beaucoup d'argent si possible, pour justement aider mes proches et ma famille. Donc, je savais que je voulais faire quelque chose de différent et il m'a un petit peu emboîté le pas. Ce jour-là en 2014 en me disant qu'il fallait que je parte maintenant, c'est ce qui m'a fait gagner du temps je pense, parce que je serais resté salarié tout en cherchant des solutions pour gagner plus d'argent, mais c'est vraiment ce jour-là où un déclic s'est créé, où je me suis dit que bah, ça allait beaucoup plus vite que prévu et que maintenant j'avais pas le choix d'être en face de moi et de devoir tout faire en tout cas pour commencer à créer ma vie entrepreneuriale.
Ok, très clair. Et justement, alors aujourd'hui, on voit le parcours, c'était il y a près de 10 ans maintenant,
oui.
Tu as accumulé des compétences, des expériences, tu as, j'imagine, fait des erreurs aussi qui t'ont appris des choses. Est-ce que tu avais des diplômes spécifiques ou des formations spécifiques dans ces domaines? Parce que moi, je connais un peu la réponse et je sais que tu as mis beaucoup de temps à te renseigner, à chercher les bonnes informations, à trouver les bonnes ressources, les bonnes personnes, les bons contacts, les bonnes connaissances bancaires, le recul, etc. Mais pour celles et ceux qui peut-être se disent « Attends, il y a un truc parce que ce n'est pas possible d'en arriver là en si peu de temps sur un déclic », alors qu'à la base, tu étais là pour un job de chef de chantier. J'ai envie de faire comprendre aux gens que finalement, bah, c'est possible et tu en es la preuve vivante.
Ouais. Alors, c'est tout à fait possible parce que j'avais aucune, moi, prédisposition, si tu veux. Je viens d'une famille totalement ouvrière. Hein. Il n'y a aucun entrepreneur à l'intérieur. Donc, vraiment, aucune prédisposition. Et ce qui est drôle, si tu veux, c'est que je savais que je voulais gagner de l'argent et beaucoup d'argent, mais je ne savais pas comment faire. Donc, en fait, quand j'ai été licencié, et c'est ça le plus drôle, c'est que j'ai juste tapé sur internet, donc en 2014, comment gagner beaucoup d'argent, et je pense qu'en 2014 c'était ce métier là qui était bien référencé parce qu'il faisait peut-être rêver ou ça commençait à être en vogue, et je suis tombé sur une page internet qui disait qu'un courtier immobilier justement pouvait gagner pas mal d'argent, donc c'est pour ça que j'ai fait la formation pour devenir courtier en immobilier. Donc c'était il y a maintenant presque 10 ans, c'est la société la plus ancienne puisque de cette page internet-là, je me suis renseigné pendant 2 mois pour ensuite trouver un organisme de formation qui allait pouvoir me faire devenir courtier en immobilier, parce qu'on peut soit l'avoir via un master, soit via des études, soit via un diplôme avec un questionnaire de compétences en fin de cursus, si tu veux. Donc moi, je suis passé par cette voie-là. Donc vraiment aucune prédisposition, aucun diplôme non plus, puisque j'ai même pas le bac. Juste une envie acharnée de gagner beaucoup d'argent, juste une envie acharnée de prouver aussi à cet ancien directeur qu'il avait fait une grosse erreur en me licenciant, mais c'est comme ça que je suis devenu courtier, c'est comme ça que j'ai créé ma première société, encore une fois sans aucun diplôme, si ce n'est celui de l'organisme de formation qui me l'a fait passer en e-learning, donc c'est vraiment quelque chose de faisable et en tout cas atteignable par tout le monde, mais c'est comme ça que tout a commencé en 2014.
Et aujourd'hui, bon, on est en 2024, c'est complètement différent. Les barrières à l'entrée sont également différentes, en tout cas du peu de connaissances que j'ai du marché de l'immobilier au global. Mais imaginons que quelqu'un nous écoute qui ne dispose pas de ses compétences et qui se dit waouh, inspirant le parcours d'Anthony. J'ai aussi envie d'en être là où il en est dans 10 ans, voire même peut-être d'accélérer le processus et d'éviter les erreurs qu'il aurait pu commettre. Quels sont les conseils et les points de vigilance que tu donnerais à quelqu'un pour éviter les éventuelles erreurs à commettre, ou même si tu veux nous partager une ou plusieurs anecdotes que tu as pu faire et qui t'ont ralenti dans ta progression?
Alors, je pense qu'il faut différencier deux types de personnes. Comme je te disais, moi, je n'ai jamais eu de vision ou de métier qui me faisait rêver. Donc, il y a ce type de personnes-là qui ont soit un métier, soit une envie particulière. Et le deuxième type de personnes, donc moi, je me situe, ou en tout cas, je pense me situer dans le deuxième type de personnes qui ne savent pas forcément quoi faire, mais qui savent qu'ils veulent gagner de l'argent. Moi, j'étais ce deuxième type de personne, si tu veux. Donc, ce jour-là, je serais tombé sur une autre formation ou en tout cas sur un autre métier. Moi, en tout cas, dans mon conscient interne, j'étais OK. En tout cas, j'étais d'accord avec l'idée que j'allais peut-être faire quelque chose que j'aimais pas forcément sur une durée courte ou assez longue, mais qui pouvait me faire gagner un maximum d'argent. Donc, je pense déjà qu'il faut savoir, et c'est le plus important, soit vous êtes d'accord pour faire quelque chose que vous aimez pas, ou en tout cas c'est pas ce que vous préférez, mais en contrepartie vous savez que vous allez gagner beaucoup d'argent, ou soit vous rêvez vraiment d'un emploi où vous avez une vision ou une vocation particulière. Et là, ça se peut que ce soit un petit peu l'inverse, c'est que si vous êtes fait pour quelque chose ou si vous voulez vraiment faire quelque chose, bah, il faut voir si les revenus que vous en espérez peuvent coller, si tu veux, avec cette vision-là. Donc, pour te répondre, moi, les erreurs, ou en tout cas ce que j'ai pu voir, c'est que pendant 2 ans, j'ai pas gagné d'argent et je me suis mis beaucoup de monde à dos, puisque quand tu quittes ton emploi à 18 ans pour dire que tu vas lancer ta première société, sachant que j'avais déjà, moi, quelques encours, puisque j'ai jamais été locataire, donc j'ai toujours été propriétaire, donc j'avais déjà quelques encours de crédit, si tu veux. Donc là, par exemple, mes parents, que je me suis jamais mis à dos, mais qui n'ont pas toujours été de bons conseils, m'ont tout de suite dit que je faisais une grosse erreur. Donc je pense qu'il faut déjà voir une vision globale, savoir si tu te positionnes surtout, ou plutôt dans le premier critère ou dans le second, et ensuite tout mettre en œuvre, encore une fois, pour mettre toutes les chances de ton côté. Mais si je pouvais donner un conseil, c'est que tout ce qu'on peut voir sur Internet aujourd'hui, je pense que c'est vrai, hein, selon certains secteurs d'activité, qu'on peut gagner sa vie, même très bien gagner sa vie, sur des durées qui sont très courtes. Moi, ça n'a pas été le cas, puisque ça a mis quand même pas mal de temps. Les 2 premières années, quand j'ai créé la société, vu que je venais pas de ce milieu-là, si tu veux, ça a été compliqué à avoir les partenaires bancaires, à avoir les accréditations avec les banques, à avoir les premiers clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 premières années, les seules personnes que j'ai financées via ma première société, donc la société de courtage, c'était des amis ou de la famille. Les premiers clients sont arrivés au bout de 24-36 mois parce que j'avais cette résilience, parce que j'avais cette envie de développer, cette envie de travailler. Et je pense que dans mon cas, en tout cas, que j'ai réussi, c'est vraiment ne rien lâcher et beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, même si pendant 2 ans, ça a été ultra compliqué, parce que les revenus que j'en espérais, en tout cas, n'étaient pas du tout les bons.
Très clair. Et justement, du fait notamment de ton passé dans le bâtiment, à un moment donné, oui, certaines personnes du secteur bancaire ne te faisaient pas forcément confiance.
Exactement.
À ce moment-là, toi, comment est-ce que tu surmontes cette méfiance? Comment tu imposes ta crédibilité? Et finalement, comment tu fais pour convaincre, pour pouvoir quand même avancer? Parce que c'est pas forcément simple.
Eh ben, moi en tout cas sur ce métier-là, ce que j'ai pu faire, qui n'est pas faisable à tous les métiers, mais je pense qu'on peut trouver des déviances, ou en tout cas essayer de faire à peu près la même chose, c'est que je suis allé voir toutes les banques. Hein, je leur ai dit, moi, je viens pas du métier. Par contre, je pense pouvoir faire quelque chose dans le métier et dans le courtage en immobilier. Donc, ce que je vous propose, c'est de travailler gratuitement pour la banque, puisque quand tu es courtier, tu peux avoir deux types de rémunération, soit par le client, soit par la banque, soit par le client et par la banque. Donc moi, au tout début, pour avoir ces accréditations et pour avoir les partenaires bancaires, je leur ai dit que j'allais travailler en tout cas gratuitement pour la banque, en me faisant rémunérer que par le client. Et au début, je me faisais pas non plus rémunérer par le client, puisque comme je te disais, c'était que des amis ou de la famille. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mes premières conventions bancaires, en envoyant plusieurs dossiers à la banque de qualité. Ils ont vu que même si je gagnais pas d'argent, je continuais à leur en envoyer. Et c'est le fait d'avoir travaillé gratuitement pendant presque 2 ans qui a fait qu'ensuite, ils m'ont fait confiance et on a pu développer une relation commune et des synergies qui aujourd'hui, en plus, c'est des banques qui continuent de m'accompagner, moi, sur mon personnel avec tous nos investissements. Donc, c'est les mêmes banques du début, si tu veux, sauf qu'aujourd'hui, elles me font globalement beaucoup plus confiance qu'un client lambda, parce que j'ai travaillé gratuitement pour elles pendant presque 2 ans.
Mmh. Ouais. Et justement, aujourd'hui, donc on en parle, ça fait 9 ans, il y a une 15aine d'entreprises, tu as investi dans beaucoup d'unités,
oui,
plus d'une centaine de logements en location au moment où on se parle. Est-ce que tu peux nous faire une sorte de, comment dirais-je, rétrospective, année après année, étape par étape, en termes de nombre de lots et différentes entités? Parce que tu vois, c'est un peu ce phénomène qu'on voit sur les réseaux, où finalement, on a l'impression que la personne réussit du jour au lendemain, mais la réalité, on sait tous les deux, tu mets 10 ans pour réussir du jour au lendemain. Donc, ça peut être intéressant de faire cette rétrospective, et puis ensuite, je te poserai une ou deux questions par rapport à ce parcours, justement.
Ok, super. Alors, moi, comme je te disais, je savais que dans l'idée, je voulais gagner beaucoup d'argent, donc j'ai tout de suite mis en place un plan d'action et une vision. C'est que les 2 premières années, donc quand j'ai démissionné, j'avais déjà acheté deux appartements, dont ma résidence principale, puisque comme je te disais, j'ai jamais été locataire, j'ai tout de suite voulu accéder à la propriété. Et quand j'ai créé ma société, je me suis dit, bah aujourd'hui, la seule chose à faire, c'est que pendant 2-3 ans, je fasse rien d'autre qu'une seule chose, mais il faut la faire bien. Donc c'est là où je suis devenu courtier. Pendant 3 ans, grossièrement, j'ai rien acheté. Par contre, je me suis concentré sur faire une seule chose, c'est-à-dire le métier de courtier en opérations bancaires. Je le faisais très bien, c'est comme ça que j'ai été référencé et c'est comme ça que j'ai eu de plus en plus de clients parce que entre 0 et 24 mois, j'ai fait très peu de clients. Par contre, entre 24 et 36, c'est là où la machine a commencé à prendre, si tu veux, et c'est là où j'ai fait beaucoup, beaucoup de clients parce que j'étais référencé sur le secteur comme quelqu'un qui savait faire de l'ingénierie financière, c'est-à-dire que je pouvais accompagner les profils plutôt débutants qui voulaient acquérir une résidence principale ou les gros investisseurs qui avaient déjà un gros patrimoine et qui voulaient continuer à investir. Donc, j'avais vraiment une expertise dans ce domaine de compétences, si tu veux. Donc, entre 0 et 36 mois, j'ai rien fait d'autre que mon métier. Je l'ai surtout bien fait. C'est comme ça que j'ai été référencé, pardon. C'est comme ça que le bouche à oreille a commencé à marcher. C'est comme ça que j'ai tiré mes premiers revenus. Après les 36 mois, donc on arrive à 2014, 15, 16, 17, on va dire en 2018, c'est là où ça a commencé à aller beaucoup plus vite puisque j'avais des gros revenus, c'est ce que j'avais prévu depuis le départ. Et grâce à ces gros revenus-là, j'ai pu solliciter les banques qui m'accompagnaient sur le métier de courtier avec qui j'avais l'habitude de travailler pour commencer à développer un parc immobilier, si tu veux. Et donc, c'est là que j'ai commencé à créer des sociétés, donc des sociétés civiles, puisque quand tu investis en immobilier en France, c'est une des solutions qui peut être apportée. Et c'est là où j'ai commencé à créer une, deux, trois sociétés dans la même année avec ces gros revenus-là, justement, pour ensuite apporter les unités à l'intérieur de ces sociétés. Donc, entre le premier jour de l'entrepreneuriat et le 36e, je dirais que j'ai, alors de tête, j'ai presque rien acheté. Par contre, entre 3 ans et 6 ou 7 ans, c'est là où j'ai acheté le plus de lots. Sachant que je n'avais pas forcément d'idée à ce moment-là, je savais ce qu'il fallait faire, puisque quand j'achetais des lots, j'essayais d'acheter des lots qui ressemblaient au précédent, et vu que le précédent marchait très bien, je savais exactement ce que je devais faire après, c'est-à-dire acheter, si possible, avec peu ou pas de locataires, tout rénover avec la même manière que le précédent, puisque j'avais la certitude et en tout cas les capacités financières pour savoir exactement ce que ça allait me coûter en termes d'achat, en termes de montant de travaux, en termes de temps de travaux, en termes de rentabilité locative, en termes de revenus fonciers. Donc, j'ai tout le temps dupliqué, si tu veux, une manière et une solution qui a bien marché dès le début pour arriver aujourd'hui, comme tu le disais, avec un parc immobilier. Un petit peu moins aujourd'hui, puisque j'en ai vendu quelques-uns et je suis en train d'en vendre encore, mais avec un parc immobilier qui s'approchait des 100 lots, oui.
Ok, ok. Extrêmement intéressant. Et justement, tu évoques un point, c'est que du premier mois à ton 36e mois, plus ou moins, donc 3 ans d'entrepreneuriat,
oui,
il ne se passe pas grand-chose, ou en tout cas, il n'y a pas ce phénomène d'accélération. Et c'est à partir du 36e mois, pendant les 7 années qui vont suivre, où là, ça s'accélère, il se passe beaucoup de choses. C'est oui, notamment lié aux intérêts cumulés, à l'effet cumulé, le compound effect par rapport aux compétences, aux connaissances, aux finances et à tout ça. Ça peut être intéressant, effectivement, j'appuie là-dessus parce que beaucoup trop de gens veulent des résultats quasi instantanés, mais n'ont pas, n'ont pas la patience d'attendre ça. Outre les résultats, est-ce que y a une chose ou un secret ou en tout cas un élément qui, selon toi, a vraiment fait toute la différence dans ton parcours et ta capacité à accélérer? Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Alors, ouais, je pense que j'ai fait les choses de la bonne manière, ou en tout cas de la bonne manière pour moi, d'après le plan que j'avais mis en place il y a maintenant 10 ans, c'est que j'ai toujours voulu fidéliser des clients. Parce que je me suis dit que le fait de fidéliser des clients, j'aurais pas besoin de me vendre et les clients parleraient de moi à d'autres clients qui viendraient à moi. Donc, si tu veux, sur la partie courtage, j'ai toujours eu des clients qui m'ont fait confiance, j'ai su les fédérer et c'est ça qui a fait que j'ai pu avoir de gros revenus. Et ensuite, sur la partie investissement, parce que en fait, tout dépend et tout a commencé avec la société de courtage. Grâce à la société de courtage, j'ai pu avoir des revenus plus conséquents. Le fait de travailler avec les banques sur la société de courtage, c'est ce qui fait que le premier projet que j'ai proposé à la banque a été accepté. Le fait que le premier projet ait été accepté et se soit bien passé, que ce soit en termes d'acquisition, de durée de travaux, de montant de travaux qui n'a pas été dépassé, de revenus fonciers que j'avais estimés qui ont été faits, ils m'ont fait confiance pour les suivants. Donc, je pense que le plus important, c'est d'être en phase avec toi-même, puisque moi, j'ai toujours été correct avec tout le monde, d'être en phase avec toi-même, mais surtout d'être en phase avec tes plans et d'être en phase aussi avec tes partenaires qui pourront t'accompagner sur des durées qui sont beaucoup plus longues, puisque moi, comme je te dis, les partenaires que j'avais il y a 8, 9, 10 ans, c'est les mêmes que j'ai aujourd'hui, même si on en a beaucoup plus, puisque la solidité financière est beaucoup plus importante maintenant. Mais je pense qu'une des choses, ou en tout cas dans l'investissement immobilier, ce qui peut être important, c'est t'en tenir vraiment à ce que tu vas raconter et essayer de prendre vraiment les étapes les unes après les autres et de faire en sorte que les premières se passent bien pour emboîter le pas et pour que tes partenaires bancaires continuent de te faire confiance sur des montants, sur des acquisitions qui sont forcément de plus en plus importantes sur la durée et dans le temps.
Très clair. Et à contrario, est-ce qu'il y a justement des erreurs ou une anecdote que tu pourrais partager qui t'a coûté vraiment cher, que ce soit en temps, en énergie ou en argent, mais qui t'a offert une vraie leçon que tu pourrais nous partager ici?
Ouais, c'est que l'un de mes premiers investissements, c'était un immeuble de rapport, si tu veux, de 5 appartements. Et j'avais un petit peu ce syndrome, comme tout le monde peut l'avoir, hein, de vouloir économiser sur les travaux et sur la société qui pourrait faire les travaux. Sauf que ça s'est mal passé puisque les délais n'étaient pas tenus. J'ai dû trouver une autre société. Donc, une des premières erreurs, en tout cas, qui m'a coûté et du temps parce que j'ai perdu un an et de l'argent puisque j'ai perdu presque 70 000 euros sur ce premier gros immeuble puisque j'avais déjà des plus petites unités, mais c'était un de mes premiers gros immeubles, c'est que d'essayer en tout cas de trouver le moins cher, que ce soit en termes de partenaires et banquiers et comptables et fiscal et juridique et pour la partie travaux, tu peux te retrouver vite embêté parce que ça s'est pas du tout passé comme prévu, si tu veux. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir un plan, s'y tenir et surtout ne pas chercher le moins cher que ce qu'on pourrait trouver sur le marché aujourd'hui, puisque le marché est beaucoup plus grand maintenant. Donc on peut vite se rendre compte que d'essayer finalement d'économiser des petits euros sur des si grosses opérations, on se retrouve à en devoir beaucoup beaucoup plus que les petites économies que j'ai pu en faire à ce moment-là. Donc c'est une des premières erreurs que j'ai fait en IMO, c'est de chercher le moins cher et le plus rapide, sauf que le moins cher et le plus rapide, c'est pas souvent la bonne solution, surtout dans l'IMO et dans la rénovation.
Complètement, complètement. Quand on parle d'immobilier, on parle souvent d'effet de levier également. L'ingénierie financière notamment, c'est un de tes domaines d'expertise désormais. Je sais que tu accompagnes aussi tes clients sur l'ingénierie financière, entre autres. Est-ce que tu peux expliquer en quoi cela consiste et son importance aujourd'hui? Parce que trop peu de gens sont éduqués sur ces sujets, je trouve.
Alors, l'ingénierie financière, c'est assez simple, si tu veux. Il faut voir ça comme un ingénieur du bâtiment. Pourquoi? Parce qu'un ingénieur du bâtiment, grossièrement, tu as deux types de profils. Tu as l'ingénieur qui arrive au début du chantier et qui voit la totalité du chantier et la fin du chantier. Et tu as une société qui va venir pour faire la peinture, grossièrement, si on regarde d'en haut. L'ingénierie financière, c'est à peu près la même chose. Je le faisais à l'intérieur et je le fais encore aujourd'hui à l'intérieur de ma société de courtage. Et ça va avec le fait que je te disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, je suis en capacité d'accompagner la totalité des personnes et la totalité des besoins que pourrait avoir un investisseur immobilier, puisque j'ai déjà accompagné, je sais accompagner et je continue d'accompagner les débutants ou les personnes qui ne veulent pas forcément investir beaucoup dans l'immobilier, mais qui cherchent juste à acquérir une première résidence principale ou un premier appartement. Et à l'inverse, j'ai déjà financé des gros clients, donc des gros investisseurs qui ont déjà un patrimoine de plusieurs millions, qui ont déjà des encours de plusieurs millions et qui veulent continuer à investir plusieurs millions d'euros. Donc en fait, l'ingénierie financière, si tu veux, c'est pas juste regarder le client et le dossier qu'il te propose, c'est regarder la totalité des dossiers qu'il aura à te proposer par la suite pour mettre aujourd'hui en place des premières solutions ou en tout cas avoir une vision long terme avec ce client-là, qui fait que le dossier qui va t'apporter aujourd'hui, tu sauras le financer, mais les prochains, tu sauras aussi les financer, puisqu'en amont, tu as pensé à toutes les solutions possibles et imaginables que tu pourrais proposer à tes partenaires bancaires, que ce soit via des rachats de crédit sur des durées plus longues, que ce soit via des remboursements de prêts avec une épargne qu'ils ont de côté, que ce soit en limitant l'apport personnel sur un premier projet pour en avoir un petit peu sur le second. Enfin, c'est vraiment une ingénierie globale et une vision globale sur la totalité des dossiers et la totalité de la totalité du besoin que pourra avoir ton client pour la suite des opérations et pour la suite de ses investissements.
Très clair. Maintenant, imaginons, c'est quoi les principaux concepts de l'ingénierie financière que tout entrepreneur ou tout individu devrait comprendre pour gérer efficacement ses finances? Dit autrement, je suis un de tes clients, j'ai envie de commencer à travailler avec toi et je me dis, waouh, Anthony, franchement, incroyable le parcours que tu as eu, les effets de levier que tu as su mettre en place. J'ai moi aussi envie de pouvoir construire un patrimoine tel que le tien ou autre. Oui. Quelles sont les premières étapes ou les premiers mécanismes à mettre en place, les premiers constats à faire, les premiers changements à faire, les questions à me poser pour pouvoir établir correctement ma stratégie d'une part et puis d'autre part, bah, pas me fourvoyer parce que je pourrais me dire, bah, tiens, je vais acheter, je te dis une bêtise, deux immeubles de rapport, mais finalement, peut-être je pourrais en prendre 10 ou peut-être qu'en fait, je n'ai pas du tout les finances pour ça et je dois prendre seulement deux appartements. Comment tu verrais la chose? C'est quoi les étapes?
Eh ben, aujourd'hui, en plus, c'est ultra simple, si tu veux, parce que vu que ça fait longtemps que je le fais, on a mis des process en place qui sont ultra précis, ultra rapides. C'est que moi, aujourd'hui, via une réservation sur mon calendrier privé, en 20 à 30 minutes, grossièrement, en te posant quelques questions hein, sur ta situation de famille, sur ta situation en termes de salaire, de revenus, d'épargne, d'apport que tu voudrais mettre dans un projet, je sais estimer ce que tu pourrais faire à l'instant T, ce que tu pourrais faire par la suite. Donc, je pense que le plus simple et ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est un petit entretien de 15 à 30 minutes grand maximum, il n'y a pas besoin de plus hein, pour un premier entretien, pour vraiment voir tout ce que tu fais aujourd'hui et tout ce que tu mets aujourd'hui dans ta vie qui pourrait faire que tu pourrais devenir investisseur ou un gros investisseur par la suite. Et ensuite, au cas par cas, à la tête du client ou à la tête à tête, si tu veux, c'est vraiment mettre des solutions en place. Mais ça dépend un petit peu du dossier, ça dépend d'énormément de choses, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu viennes d'une famille ou pas qui peut t'apporter des petites ressources telles que de l'apport personnel, que tu aies un petit peu d'épargne de côté ou pas, dans quel secteur tu vis, parce que selon le secteur, c'est pas non plus les mêmes rentabilités ni les mêmes achats. Ça peut être du patrimonial, ça peut être du vrai revenu pour avoir de la rentabilité. Ensuite, dans l'immobilier, tu peux avoir des questions telles que ta vision, est-ce que tu veux que ce soit de la longue durée, est-ce que tu veux que ce soit du saisonnier. Donc en fait, si tu veux, c'est toutes ces questions auxquelles on devrait répondre ensemble pour savoir un petit peu la vision que tu as aujourd'hui et la vision du futur pour t'apporter des solutions communes. Et il faut, je te dis, entre 20 et 30 minutes à peu près pour savoir exactement ce que tu voudras faire de ta vie immobilière par la suite.
Ok, en 20 à 30 minutes, ok, tu peux faire un constat global et un audit.
Ouais.
Ok. Un autre sujet, justement, c'est que pour beaucoup aujourd'hui, investir dans l'immobilier, ça résonne avec risques et complications. Ton objectif est de démocratiser l'accès au marché. Comment est-ce que tu le décomplexifies, justement?
Eh bien, ça, il y a deux choses. Déjà, la première, moi, quand on me pose la question de comment j'ai fait pour investir autant dans l'immobilier, c'est la réponse que je t'ai donnée tout à l'heure, c'est que j'ai dupliqué quelque chose qui marchait déjà. J'avais un secteur, ou en tout cas, j'habite dans un secteur que je connais par cœur. Je sais ce que les gens recherchent, je sais ce que j'ai déjà acheté, je sais comment j'ai rénové, je sais pour combien j'ai rénové, je sais pour combien c'est loué. Donc quand un immeuble, enfin, quand on m'apporte un immeuble, puisqu'aujourd'hui c'est pas moi qui recherche, mais c'est plutôt les agences qui viennent vers moi, quand on m'apporte un immeuble, si tu veux, je sais exactement si ça correspond aux besoins du marché. Et vu que ça a très bien marché depuis plusieurs années, je sais exactement ce qu'il faudrait faire pour que ça continue à marcher. Donc ça, c'est pour la première partie, investissement immobilier. Sur la seconde, quand on parle de démocratiser le marché immobilier, ça, c'est plutôt via nos fonds d'investissement, puisque j'ai plusieurs fonds d'investissement aujourd'hui. Là, si tu veux, c'est que c'est un petit peu dans la continuité de l'investisseur immobilier. Quand tu es investisseur immobilier, c'est bien, puisqu'on parle beaucoup de cash flow mensuel, tu peux gagner ta vie, tu peux gagner de l'argent tous les mois. Par contre, il y en a beaucoup qui veulent aller plus vite et qui veulent aller plus loin. Quand tu es investisseur immobilier, que tu veux aller plus vite et que tu veux aller plus loin, c'est là que tu vas regarder pour faire des premières opérations d'achat-revente et pour devenir marchand de biens. Et en fait, si tu veux, on est arrivé à un point où en 2020-2021, juste avant, pendant ou après le Covid, je ne sais plus très bien exactement, mais j'avais beaucoup d'investisseurs immobiliers puisque moi, j'en ai accompagné des centaines hein, en ayant autant de clients et de dossiers, si tu veux. On arrive à un point où il y en a beaucoup qui me demandent pour devenir eux-mêmes marchand de biens. Sauf que pendant le Covid, il y en a beaucoup qui se sont cassés la gueule, si tu veux, pour être cru. Et donc, les banques ne prenaient pas de nouveaux clients. Donc, j'avais aucune solution à apporter à tous les clients qui voulaient devenir eux-mêmes marchands de biens, ou en tout cas, qui voulaient commencer à acquérir les compétences pour devenir marchands de biens. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer ce fonds d'investissement-là. En fait, c'est un fonds qui accompagne les clients particuliers ou professionnels, puisque tu peux rentrer à l'intérieur. Alors, quand je dis un fonds d'investissement, c'est juste une grosse société d'achat-revente, mais on peut voir ça comme un fonds d'investissement. Tu peux rentrer à l'intérieur via tes fonds propres ou via les fonds d'une de tes sociétés. Et quand tu intègres ce fonds-là, c'est des fonds qui sont bloqués pendant une durée précise, mais tu intègres surtout une communauté ou en tout cas, tu intègres une société qui peut t'apporter énormément de compétences puisque tu peux échanger avec la totalité des personnes qui sont à l'intérieur. Mais tu as surtout accès à des opérations auxquelles tu ne pourrais pas avoir accès, toi, à titre personnel, puisque c'est des grosses rénovations, c'est des gros montants, c'est plusieurs millions d'euros qui sont investis chaque année via ces fonds d'investissement-là. Et le ticket pour entrer est assez minime par rapport au nombre d'opérations et au montant des opérations. Et c'est une chose qui fait que justement on démocratise, puisque presque tout le monde peut rentrer à l'intérieur de ce fonds-là, prendre beaucoup, beaucoup d'expérience et commencer à enclencher le pas pour devenir eux-mêmes marchands de biens via ce fonds et toutes les connaissances qu'on peut y apporter à l'intérieur, si tu veux. Donc, c'est comme ça qu'on démocratise. Ça n'existait pas quand on l'a créé, ça n'existe toujours pas aujourd'hui et ça nous permet d'avoir une vision novatrice du marché de l'immobilier, plus principalement dans les achats-reventes, puisque pour moi, en tout cas, notre vision, c'est que l'achat-revente, c'est un petit peu la continuité des investissements immobiliers. Et c'est bien de faire les deux, encore une fois, et je le répète, c'est que c'est bien de diversifier, c'est bien d'avoir et de l'investissement locatif, et en plus, à l'intérieur de l'investissement locatif, tu peux encore diversifier, que ça soit de la location longue durée, que ça soit du saisonnier, que ça soit de la sous-location. Et c'est bien aussi d'avoir une petite parcelle d'achat-revente pour faire des montants qui sont plus importants, qui sont plus courts et qui font que tu peux dupliquer. Là, en plus, va avec l'autre. Là, on crée des synergies pour l'autre, puisque quand tu as des fonds et que tu veux faire des achats-reventes, les fonds que tu récupères, tu peux les réinvestir pour faire de l'investissement locatif. De faire de l'investissement locatif, tu auras forcément des opportunités pour faire des achats-reventes. Donc, ça crée, si tu veux, un écosystème qui fait que quand tu es à l'intérieur de cet écosystème-là, on peut t'apporter toutes les solutions possibles et imaginables pour que tu puisses te développer rapidement par la suite.
Quand on fait appel justement à un fonds d'investissement comme le tien, à quoi on doit s'attendre en termes de rendement, en termes de risque? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui nous écoutent, par exemple, et qui savent faire de l'argent. Donc c'est déjà une compétence.
Oui.
Par contre, savoir le garder, savoir le gérer, ouais, savoir le faire fructifier, c'est d'autres compétences. Et souvent, les gens ne disposent pas de l'ensemble de ces compétences. Donc souvent, déjà, ne serait-ce que d'avoir conscience qu'il existe des solutions pour pouvoir nous y aider, sans forcément faire une promotion spécifiquement de ce que tu fais ou de ton fonds.
Oui, oui.
Voilà, moi, je connais pas ton fonds, je connais pas tes performances. Je te connais toi et je sais de quoi tu es capable et je te fais confiance. Mais voilà, disclaimer pour ceux qui nous écoutent, faites vos recherches et ayez différentes sources d'informations par rapport aux solutions qui sont présentes, mais ça m'intéresse vraiment de comprendre le fonctionnement et ce à quoi on peut s'attendre sur ce type de sujet, et je pense que ça intéresse ceux qui nous écoutent.
Oui, avec plaisir. Déjà, la première chose, c'est que quand j'ai créé ce fonds, donc qui s'appelle G2IAR, quand j'ai créé ce fonds-là, c'est parce que je savais que j'avais énormément de demandes et les personnes qui sont rentrées à l'intérieur du premier fonds, donc on a levé 1 million d'euros, là on est en train de terminer la levée de fonds de 2 millions d'euros, donc on a 2 fonds aujourd'hui, c'était que des anciens clients ou que des personnes que j'avais en relation proche. On n'a aucune personne qui ne me connaissait pas, moi ni mon associé, qui sont rentrés à l'intérieur, si tu veux, parce qu'on voulait vraiment faire un test. Et de faire un test grandeur nature avec des personnes que tu connais ou que tu as déjà accompagné, c'est beaucoup plus simple de se rendre compte que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc aujourd'hui, si quelqu'un veut nous rejoindre à l'intérieur de cette société marchand, c'est via un ticket minimum de 25 000 euros, puisque quand tu lèves 1 million ou 2 millions, il faut mettre un ticket minimum, sinon tu peux te retrouver à avoir des sommes beaucoup moins importantes et c'est beaucoup plus compliqué à avoir un rendu efficace ou en tout cas être assez réactif avec les questions que tout le monde peut te poser. Donc si tu rentres à l'intérieur de ce fonds d'investissement-là, c'est un capital qui est bloqué pendant 36 mois. Pourquoi 36 mois? Parce que quand tu fais des opérations d'achat-revente, tu te rends compte qu'il faut que ce soit sur des durées assez longues, sinon c'est compliqué d'optimiser ton épargne et d'optimiser ta trésorerie. Donc tu rentres à l'intérieur de ce fonds d'investissement-là. Pendant 36 mois, ton capital est bloqué à l'intérieur. Avec ce capital, nous, on fait des opérations d'achat-revente totalement transparentes et totalement communes avec les personnes qui sont à l'intérieur du fonds, puisque tu as un droit de regard sur la totalité des opérations. Et même si c'est moi qui choisis en amont les projets, on a toujours un vote à la majorité de tous les actionnaires à l'intérieur du fonds pour que justement les projets soient votés en commun et que tout le monde ait un droit de regard sur chaque projet. Donc pendant 36 mois, on fait des opérations d'achat-revente et en fait, l'objectif n'est pas juste financier. C'est déjà un objectif financier, certes, qu'on pourrait échanger juste après, mais c'est surtout un objectif d'expérience et de communauté, puisque à l'intérieur, c'est que des personnes qui ont une forte valeur ajoutée, parce que tout le monde ne vient pas que de l'immobilier. On a des personnes qui sont dans le pharmaceutique, on a des personnes qui sont dans l'assurance, on a des personnes qui travaillent dans des sociétés du CAC 40. Enfin, on a vraiment un panel d'expérience et de compétences à l'intérieur. Qui fait que, hormis une rentabilité financière, tu peux venir rechercher énormément de choses comme de l'expérience, piocher dans l'expérience de chacun, puisque chacun est un petit peu expert dans son domaine. Donc, en intégrant ça, hormis la rentabilité financière, tu intègres encore une fois une petite famille ou en tout cas une communauté à taille humaine qui fait que tu peux gagner beaucoup de temps et gagner de l'argent, puisque c'est le but. Donc, en termes de rentabilité financière, Nous, si tu veux, on peut pas. On a un objectif qui est entre 45 et 60% sur 36 mois de rendement, sauf que l'objectif là est juste annoncé, il n'est pas écrit sur les documents. Pourquoi ? Parce que un objectif annoncé sur des documents, ça pourrait être compliqué pour les deux parties. C'est-à-dire que si nous, on faisait moins de 60%, ce serait compliqué de devoir le justifier à nos investisseurs actionnaires. Et si on faisait plus de 60%, on aurait la possibilité de ne pas rétribuer la totalité à nos investisseurs actionnaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas d'objectif financier à proprement écrit sur nos documents et sur tous nos bulletins de souscription. Le seul objectif, et tout le monde nous fait confiance sur ça, c'est qu'on va faire le maximum possible pour que tout le monde puisse gagner ce qu'il a à y gagner, mais on n'a pas de barrière puisque le fait de mettre 30, 40, 50%, ça met une barrière. Nous, on voulait pas de barrière, on voulait faire le plus possible.
Ok, très clair. Un autre sujet aussi, le gros avantage peut-être en passant par un fonds comme le vôtre, et encore une fois, je pense qu'il en existe plein. Le but, c'est pas de faire la promotion spécifiquement pour ça, mais plus d'éduquer les gens. C'est aussi que tu évites toutes les emmerdes, si je peux me permettre, de gestion des biens. Moi, je le vois. Alors, pas moi personnellement, mais un de mes proches a acheté plusieurs immeubles en France à un moment donné. Un associé, etc. et s'est dit tout le monde dit qu'il faut investir dans l'immobilier, je vais le faire aussi. Un an ou deux ans plus tard, il a revendu ses biens parce que ça lui prenait une énergie, une charge mentale dingue. Alors que lui, son expertise, c'est de développer et créer des business et créer de la valeur via de l'entreprise. Dans ton cas, en tant que propriétaire d'une centaine de logements en location, quelles sont les différentes leçons importantes que tu as apprises dans l'investissement immobilier, dans la gestion de ces biens que tu pourrais partager pour éviter, d'une part, toutes les problématiques auxquelles font face la plupart des gérants et des propriétaires, mais aussi peut-être partager des erreurs qu'on pourrait faire quand on démarre.
Alors, encore une fois, comme tu le dis, il y a tellement de choses visibles aujourd'hui sur Internet qu'il faut quand même bien se renseigner. Il ne faut pas essayer de rejoindre un effet de groupe parce que les gens et beaucoup de gens investissent dans l'immobilier. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens investissent dans l'immobilier déjà que toi, tu dois investir dans l'immobilier pour réussir ta vie. Hein. Ce n'est pas un critère de réussite. C'est juste quelque chose qui fait que tu peux aller plus vite et aller plus loin. Maintenant, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment deux visions. C'est soit tu vas être totalement passif. Totalement passif, ça veut dire quoi ? C'est que toi, tu veux juste mettre des fonds et ne rien gérer toi-même. Moi, ce n'était pas mon cas puisque pour aller plus vite et apprendre de mes erreurs, j'ai voulu tout gérer moi-même. Tout gérer moi-même, c'est-à-dire que j'ai voulu moi-même chercher les biens, j'ai voulu moi-même aller signer chez le notaire pour connaître toutes les informations qui pouvaient être indiquées et dans un compromis et dans un acte de vente. J'ai voulu moi-même rechercher les sociétés qui vont faire les travaux, j'ai voulu moi-même coordonner les travaux, j'ai voulu moi-même mettre en location les biens, j'ai voulu moi-même gérer tous mes biens. Et c'est, si tu veux, un panel d'expérience qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, tout est délégué. Je m'occupe de presque plus rien. Mais j'ai pu apprendre de mes erreurs, j'ai pu apprendre de mes compétences, savoir exactement où j'étais bon et où j'étais un petit peu moins bon et où j'étais moins bon, finalement, le délégué, si tu veux. Mais quelqu'un qui veut commencer à investir dans l'immobilier, je pense déjà qu'il faut faire un gros recherche ou en tout cas un gros point, une étude de cas sur le secteur. Parce que si tu veux investir dans un secteur qui n'est pas proche du tien, tu vas forcément devoir déléguer et les travaux et la gestion et la mise en location. Alors que si c'est un secteur qui est proche du tien, tu peux t'occuper de tout ça, en tout cas au début. Ça va dépendre de ta capacité financière aussi. Est-ce que tu veux diversifier du risque? Est-ce que tu veux mettre tous tes œufs dans le même panier? Parce que si tu veux diversifier, je te dis une bêtise, au lieu d'avoir un immeuble à 500 000 euros, tu peux peut-être en acheter deux à 250 ou 5 à 100, tu vois. Enfin, tu peux vraiment tout faire dans l'immobilier. Donc, je pense que le plus intéressant, c'est vraiment de se renseigner, hein, même si nous, on ne fait pas de formation. Je pense que sur Internet, aujourd'hui, tu arrives à trouver quand même pas mal de choses, que ce soit des formations payantes ou gratuites. Sur le fait de déjà des premiers conseils pour investir dans l'immobilier, tu arrives à tout retrouver vraiment sur Internet. Donc, je pense que le plus important, c'est de te former dans un premier temps gratuitement, puis passer sur de la formation payante si tu penses avoir... Enfin, si tu penses en tout cas ne pas avoir toutes les réponses à tes questions dans la formation gratuite, mais il y a tellement de choses aujourd'hui sur Internet qui peuvent être proposées qu'il ne faut pas partir tête baissée, je pense. Il faut quand même un mini plan ou en tout cas savoir où tu veux aller, si tu veux être tranquille, si tu veux que ce soit totalement passif, combien tu veux gagner. Déjà, si tu veux gagner quelque chose tous les mois, combien tu veux gagner tous les mois? Est-ce que tu veux que ce soit plutôt patrimonial mais ne rien gagner tous les mois, mais savoir que tu peux revendre plus cher si un jour tu le revends? Donc, aller sur un investissement plutôt patrimonial. Est-ce que tu veux que ce soit plutôt de la location saisonnière? Et donc là, ça demande encore une compétence un petit peu plus particulière. Est-ce que tu veux que ce soit de la location longue durée, mais totalement passive, c'est-à-dire le délégué à la totalité des intervenants que tu pourrais avoir sur le secteur, mais gagner un petit peu moins d'argent, puisque forcément, le fait de déléguer, ça prend une petite partie de ta rentabilité. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, comme pour le courtage, moi, je vois l'investissement immobilier exactement de la même manière, c'est qu'il faut un petit audit pour savoir exactement ce que tu recherches dans le monde de l'investissement immobilier aujourd'hui. Mais le fait de rejoindre un fonds, que ce soit le mien, encore une fois, c'est pas vraiment un fonds, c'est une grosse société marchand, mais ça fonctionne comme un fonds d'investissement. Le fait de rejoindre un fonds comme le nôtre ou de rejoindre un groupe, une communauté, c'est vraiment que tu peux apprendre de tout le monde. Et chacun à l'intérieur, nous par exemple, on essaye d'internaliser le plus de choses possible, que ce soit sur la recherche de biens, sur la vente de biens, sur les assurances à l'intérieur de tous nos biens. On essaye d'internaliser le plus de choses possible pour que quand tu nous rejoins, tu as vraiment un panel encore une fois de compétences et tu sais que tu peux faire confiance à tout le monde puisqu'encore une fois aujourd'hui, il y a tellement de choses gratuites sur Internet que tu peux vite te retrouver à ne plus savoir où regarder si tu veux.
Complètement. Bah, justement, tiens, parlons-en, parce que des choses gratuites sur Internet, il y en a beaucoup. Il y a tout et son contraire. Et je pense que c'est ça le problème, finalement. Ce n'est pas qu'il y ait des infos, c'est qu'il y ait trop d'infos. J'imagine qu'au départ, tu as aussi utilisé un petit peu Internet ou en tout cas les informations que tu pouvais trouver à gauche et à droite pour pouvoir monter en compétences ou échanger au maximum avec les gens que tu rencontrais. Tout ça, on en parlera après de ça, parce que tu attaches une importance énorme, notamment à l'entretien des relations, du réseau et autres.
Exactement.
Dans ton cas, si tu avais un ou deux conseils à partager à des gens qui n'ont pas forcément les moyens au départ de se former ou qui ne savent pas comment choisir, parce que finalement, lorsque tu veux investir dans l'immobilier, tu as quand même un minimum au départ d'apport. Donc, ne serait-ce que si tu as allé, je dis une bêtise, même 10 000 ou 15 000 euros d'apport, si tu te dis « je m'autorise à investir ne serait-ce que 10% de cet apport dans ma connaissance », tu peux quand même avoir accès à des formations et de l'information assez structurée pour pouvoir éviter des erreurs qui te coûteront beaucoup, beaucoup plus cher que ces 1 000 ou 1 500 euros que tu investis.
Ouais, c'est sûr.
Et,
c'est sûr.
Comment tu t'y prendrais justement pour rechercher, excuse-moi, ouais.
Bah, je pense même pas que comme tu disais, c'est bien de faire des recherches. Maintenant, moi, j'ai jamais payé, ou en tout cas pour mes premiers investissements, comme je te disais, j'ai jamais voulu rester locataire, donc je suis tout de suite devenu propriétaire avec les erreurs qui vont avec. Mais je pense quand même qu'au bout d'un moment, c'est bien de se documenter, c'est bien de regarder tout ce qu'on peut y trouver sur Internet. Maintenant, et malheureusement, tu feras des erreurs, même si tu rejoins des fonds, même si tu rejoins X ou Y personnes. Tu feras certainement des erreurs. Maintenant, le but, c'est de faire les erreurs au tout début, si possible sur des montants qui sont beaucoup plus petits, et de les faire surtout au début de ton apprentissage, ou en tout cas au début de ta vie entrepreneuriale. Moi, quand je te disais les erreurs que j'ai pu faire au départ, je ne me suis pas documenté, je n'ai pas pris de formation, j'ai juste regardé sur Internet tout ce qu'on pouvait y trouver en termes de gratuité, et je me suis dit que j'allais passer à l'action. J'étais encore jeune, j'avais de la chance d'avoir un âge assez primaire, si tu veux, mais je me suis tout de suite dit que j'allais faire les choses, et ça c'est une de mes philosophies, c'est que quand je dois prendre une décision, j'essaye d'aller le plus vite possible sur une de toutes les décisions que je peux avoir, même si c'est pas forcément la bonne, mais au moins c'est une des décisions, parce que à se demander si tu fais le bon choix, tu peux vite te retrouver à ne pas en faire, et à ne pas faire de choix, bah finalement tu te retrouves forcément à ne pas faire d'erreur, mais à ne pas faire d'erreur, tu te retrouves aussi à ne pas avoir grand-chose à la fin. Donc, je pense que des conseils, ou en tout cas un conseil à donner, c'est qu'encore une fois, c'est bien de se documenter. Maintenant, il n'y a rien de mieux que quand même de passer à l'action. Donc, si possible, quand tu parlais d'un apport avec 10 000 euros, on peut aujourd'hui aller chercher entre 100 et 150 000 euros d'emprunt. Tout dépend où tu habites, mais tu arrives quand même à avoir soit un petit appartement, soit deux plus petits, soit un petit immeuble de rapport. Mais le tout, c'est quand même de passer à l'action, parce que plus vite tu passeras à l'action, plus vite, encore une fois, tu feras certainement tes premières erreurs, mais plus vite tu feras tes premières erreurs, moins t'en feras d'autres par la suite, et plus tu auras un paysage ouvert dans le monde de l'immobilier. Donc, se documenter, c'est bien, passer à l'action, c'est quand même ce qui va rester de mieux. Donc, encore une fois, on peut se documenter, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont totalement gratuites, mais il faut pas hésiter à passer à l'action. C'est un des points, en tout cas pour moi, qui a marché, c'est que je me pose souvent des questions, mais quand je m'en pose, j'essaye d'y répondre le plus rapidement possible, de passer à l'action. Et une fois que je suis passé à l'action, on voit comment ça s'est passé. Puisqu'à mettre trop de choses en place, moi, je pense quand même qu'à mettre trop de choses en place, tu te crées des problèmes, soit qui n'arriveront pas, soit qui seront totalement différents. Alors que de passer à l'action, forcément, tu réponds pas à ces problèmes-là. Tu peux pas savoir exactement comment ça va se passer. Mais moi, en tout cas, pour moi, ça a marché comme ça. Je suis passé à l'action et j'essaye de pivoter à droite ou à gauche quand j'ai un problème qui arrive vraiment en face, et de pas essayer d'imaginer les problèmes qui ne seront certainement pas là sur le chemin.
Complètement. Complètement. Et y a un point quand même que j'ai envie de relever, c'est que tu vois, je connais des gens qui ont une dizaine d'unités, toi tu en as une centaine, on en connaît qui en ont plusieurs centaines, voire oui. plus d'un millier, si ce n'est plus, ou qui sont sur des projets énormes, on a des amis en commun et je pense aussi à d'autres. Et il y a un point, c'est que tous, toi y compris, moi y compris, eux y compris, se remettent en question et sont en capacité de s'adapter à chaque fois aux différents changements et aux différentes choses. Et je pense que ça, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Et une des autres clés, c'est que j'en parlais il y a un instant, et c'est, ça fait aussi partie des stratégies de croissance notamment, c'est que tu donnes une énorme importance à la création et à l'entretien des relations, d'un réseau, tout en préférant rester notamment peut-être un peu plus dans l'ombre et ne pas t'exposer sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu parviens à développer ces liens et à les maintenir malgré cette volonté finalement de discrétion, pardon?
Bah, je pense que le plus important, et dans nos relations, c'est comme dans ma première société, aujourd'hui les banques qui m'accompagnent, c'est les banques qui m'ont accompagné il y a 10 ans, parce qu'encore une fois, je suis toujours resté droit, je suis toujours resté correct, et j'ai toujours dit ce que j'allais faire. Et dans les relations, c'est à peu près la même chose. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour reparler du fonds, des gens qui sont à l'intérieur de mon fonds, c'est des anciens clients que j'ai depuis 4, 5, 6, 10 ans, et j'ai toujours eu des relations qui sont assez simples, si tu veux, et je pense qu'une de mes plus grandes forces, c'est que j'arrive à fédérer les gens assez facilement, parce qu'ils voient justement que je viens pas de ce milieu, que j'ai beaucoup travaillé, et le fait de fédérer les gens assez facilement, assez simplement, et surtout le fait qu'ils me fassent assez facilement confiance aussi, parce qu'encore une fois, j'ai toujours été droit avec tout le monde, c'est ça qui fait que les gens me gardent à l'esprit, et j'ai pas besoin d'être et sur les réseaux ou d'être très médiatisé pour que les gens pensent à moi, que ce soit pour une opération immobilière, que ça soit pour de l'argent à placer quelque part, pour des conseils par exemple qui vont me demander. Moi j'ai toujours essayé de donner le maximum de ce que je pouvais donner, non pas que financier, mais que ce soit en termes de connaissances, en termes de temps, en termes de ressources. J'essaye de donner le maximum à tout le monde, et le fait de donner le maximum à tout le monde sans attendre quelque chose en retour, je pense que c'est ça qui fait que les gens sont assez fédérateurs et me reviennent assez facilement et pensent à moi, que ce soit pour tout type d'opération encore une fois. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est que j'ai jamais essayé de gagner beaucoup, beaucoup d'argent au détriment d'une personne, mais plutôt d'en gagner un petit peu à chaque fois, de prendre chaque palier étape par étape au détriment de personne, justement. Et le fait d'avoir encore une fois arnaqué personne ou d'avoir essayé de gagner de l'argent sur le dos d'une autre, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mes relations sont totalement saines. Et j'arrive à, encore une fois, je parle beaucoup du mot fédérateur parce que je pense que c'est hyper important pour moi et c'est ce qui me définit. J'arrive à fédérer les gens assez facilement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils me font confiance, que ce soit pour un projet ou pour un autre.
Et est-ce qu'il y a quand même une raison ou pas pour laquelle tu n'es pas forcément présent sur les réseaux, tu n'es pas forcément dans la volonté de créer du contenu? Je te pose cette question pour deux raisons. La première, oui. c'est que finalement, on sait que la visibilité et le personal branding peut être un énorme levier, notamment pour développer son réseau et créer des opportunités. Premier point. Deuxième point, je sais et je constate, alors je ne sais pas si tu le partages, mais moi en tout cas je le constate souvent, c'est que des gens qui comme toi ont une vraie légitimité, ont une vraie expertise et sont des gens d'action et qui ont des résultats liés à leurs actions, parfois ont une certaine frustration ou en tout cas en ont marre de voir des personnes qui ont fait un ou deux voire trois investissements et qui eh bien, se positionnent en tant qu'experts et vont étaler leur science et même parfois donner de mauvais conseils sur internet et ont parfois cet élément qui va créer chez eux une volonté, une flamme de se positionner sur internet pour finalement pas vraiment par ego, mais plus par volonté d'impact et de transmettre une vraie vérité et de sensibiliser les gens à un message pour leur dire bah, c'est plutôt comme ça que ça se passe les amis, attention à écouter les bonnes personnes, comme tu l'évoquais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses sur internet. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu cette volonté finalement, en tout cas jusqu'ici, de ne pas être présent en ligne?
Eh ben, c'est un peu tout ce que tu viens de dire, si tu veux, c'est que moi déjà pour être transparent, on m'a souvent proposer hein, de faire des formations, d'intervenir et pour de l'argent et pour de la gratuité. Mais en fait, si tu veux, moi, encore une fois, depuis le début, étant donné que j'ai toujours été droit, je me suis toujours dit que si je devais rencontrer des personnes, je les rencontrerais, que ce soit lors de séminaires ou de rencontres là où on a pu se rencontrer, nous, par exemple. Je pars du principe qu'encore une fois, la vie est bien faite. Si tu dois avoir quelque chose, tu l'auras. Si tu dois rencontrer des personnes, tu les rencontreras. Si des personnes doivent me rencontrer, ils me rencontreront parce que Oui, je veux rester discret, c'est pour ça que je suis pas sur les réseaux. Maintenant, si quelqu'un veut vraiment me parler ou m'appeler, ils arrivent à me retrouver quand même, hein, je suis pas totalement invisible, mais j'ai jamais, si tu veux, été. Alors, même si aujourd'hui j'ai un parcours qui fait que il y en a certains qui se retrouveront dedans, il y en a certains qui ont des parcours beaucoup plus importants, beaucoup plus gros, il y en a aussi certains qui en ont des plus petits. Je me suis jamais, en tout cas moi personnellement, trouvé légitime, peut-être parce que je viens pas du tout de ce milieu-là, pour vendre en tout cas des conseils ou pour vendre des formations. Encore une fois, moi je pense aux synergies communes, je pense que la vie est bien faite. Et si on doit se rencontrer, si on doit échanger, si on doit faire des affaires ensemble, je pense pas que c'est via une formation ou au travers des réseaux sociaux qu'on arrive à créer les plus belles synergies communes. Donc, encore une fois, moi, j'encourage et je félicite ceux qui sont sur les réseaux, ceux qui n'ont pas de mal à être sur les réseaux. Maintenant, moi, je pense, si tu veux, que l'avantage d'être sur les réseaux, ça aurait plutôt été un désavantage de notre tranquillité d'esprit, du fait qu'on soit tranquille aujourd'hui, du fait qu'on soit pas forcément reconnu. Et c'est ce gap-là, en fait, si tu veux. Je pense pas que le fait d'être sur les réseaux, ça m'aurait apporté beaucoup plus, hormis une raison financière, que du bienfait de ne pas y être aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est compréhensible, mais c'est vraiment ça l'idée aujourd'hui.
Très clair, très clair. Un autre sujet aussi, alors ça m'intrigue et même moi, j'ai envie d'avoir la réponse s'il y a un secret, c'est que, oui. Je l'ai dit en intro lorsque je t'ai présenté, tu as un objectif, c'est d'atteindre les 100 millions d'euros de liquidité en restant indépendant et sans employé de salarié.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce plan ? J'imagine aussi que c'est lié au fait de l'investissement, de l'immobilier, de la gestion de ce fonds. Mais dans tous les cas, même là, je me dis qu'il y a quand même une dimension dans laquelle tu dois avoir des salariés ou en tout cas des gens qui vont collaborer avec toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet et développer ?
Oui. Alors aujourd'hui, si tu veux, moi, j'ai déjà eu des salariés. C'était juste avant le Covid et je pense que c'est bien d'avoir cet épisode-là pour savoir pourquoi j'ai cette vision-là. Donc, juste avant le Covid, j'avais des salariés. Et en fait, je me suis vite rendu compte que j'arrivais pas à prendre les mêmes risques, ou en tout cas que j'étais pas assez légitime avec mes convictions quand je savais que plusieurs personnes dépendaient de moi en termes de salaire et de salariat, si tu veux. Donc, c'est là où je me suis totalement libéré. Alors, aujourd'hui, quand je dis que je veux être absolument tout seul et avoir une valorisation à 100 millions, ça peut paraître largement prétentieux, mais je pense, moi, en tout cas, que c'est largement faisable. C'est pas être tout seul à tout gérer, puisque quand je te disais qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont déléguées, c'est que j'ai des parts dans plusieurs sociétés qui s'occupent, par exemple, de nos appartements. J'ai des sous-traitants qui travaillent exclusivement pour nous sur la rénovation des biens. Donc, je suis pas tout seul. Maintenant, plus le chemin est long quand tu es tout seul, je pense que plus tu acquiers de compétences, plus tu sais exactement où tu es bon et où tu es moins bon. Donc, ça te permet de pouvoir déléguer. Mais le fait, en tout cas, d'avoir continué d'avancer sans avoir de salarié, je pense que c'est là où ça m'a fait apprendre le plus de choses possibles et le plus rapidement possible. Donc, aujourd'hui, je vais pas dire que je sais tout faire, mais en tout cas, dans l'immobilier et la finance, et plus particulièrement dans l'entrepreneuriat, je pense être assez légitime pour répondre à des questions quand on me les pose. Donc, encore une fois, je pense que j'étais plus aussi libre que je l'étais au tout début quand j'avais des salariés. Et moi, je suis quelqu'un, si tu veux, qui fait souvent des opérations à plusieurs millions, qui doit souvent prendre des décisions. Je préfère prendre les décisions pour moi et pour ma femme aussi, forcément, puisqu'elle en dépend, que d'avoir toute une équipe qui pourrait être liée à cette propre décision-là, parce que je me sens pas, moi, légitime pour mettre l'avenir de plusieurs salariés sur une décision qui pourrait être un peu plus risquée quand tu commences à faire des investissements qui sont un petit peu plus importants. Donc, voilà pourquoi cette vision, en voulant être tout seul, donc quand je dis tout seul, c'est pas tout seul, mais c'est être sans salarié et au plus possible d'avoir des personnes indépendantes ou des sous-traitants qui dépendent pas uniquement de moi. Et cette valorisation à 100 millions, ça tient compte de la totalité de mes sociétés et forcément de notre fonds d'investissement, puisque quand on va être amené dans les années à venir à faire des opérations de plus en plus importantes, comme on le dit et comme on le sait, le début est le plus compliqué. Donc, ces 100 millions-là, on commence à s'en rapprocher, ou en tout cas, je commence à pouvoir établir un plan d'action sur les années qui arrivent pour m'en rapprocher assez facilement. Et ce qui pouvait être un rêve au début, puisque au début, ce n'était pas 100, mais c'était 100 000 euros. Les 100 000 euros sont passés à 1 million, les 1 million à 10 millions, les 10 millions à 100 millions. Donc, pourquoi 100 millions ? Je n'ai pas de réponse bien précise. Je sais juste que déjà là où j'en suis aujourd'hui, sans avoir cette valorisation à 100 millions, ça m'a permis d'aider, puisque on pourra encore en échanger juste après. Mais moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui dans la vie, c'est de passer du temps avec ma famille, c'est d'offrir des choses à ma famille, c'est d'offrir des choses. J'ai la chance d'avoir encore mes deux parents. C'est de leur offrir toutes ces choses-là, si tu veux. Donc, c'est pas 100 millions pour avoir 100 millions, c'est 100 millions pour continuer à leur offrir la vie qu'ils auraient certainement pas eue si j'avais commencé l'entrepreneuriat et commencé aussi à investir dans des startups qui sont un petit peu plus petites ou dans des associations caritatives, puisque dans l'idée, et quand j'aurai cette valorisation-là, c'est de redonner un petit peu à la vie tout ce qu'elle a pu me donner aujourd'hui et d'essayer en tout cas de faire gagner du temps et de l'argent aux personnes qui se rapprocheront de moi de manière totalement naturelle et de pouvoir les aider justement à se développer plus rapidement, plus sereinement et de façon plus sécurisée sur des durées qui sont plus rapides que les miennes, puisque pour avoir cette valorisation-là, il me reste encore quelques années. Donc, je pense qu'on sera aux alentours des 15 années d'entrepreneuriat. Donc, je pense que ça pourrait faire gagner du temps à pas mal de personnes. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, je préfère ne pas avoir de salariés et savoir développer la plupart des choses qui me serviront par la suite.
Très clair. Donc, tu maintiens que dans ton modèle, tu peux rester sans salarié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas de salarié malgré l'ensemble du parc, malgré le fonds d'investissement, malgré l'ensemble des sociétés.
Exactement, ouais.
Ok. Mais ouais, c'est, tu vois, c'est tellement... En fait, moi, ce qui me choque, ce n'est pas les 100 millions. Au contraire, parce qu'une fois que tu as la méthodologie, que tu as les effets de levier, voilà, 100 millions de patrimoine ou de liquidité, ça peut paraître bizarre de dire ça ne me choque pas, mais c'est logique. C'est logique et j'ai le niveau de conscience pour comprendre que à 5, 20 ans, si les choses sont bien faites, c'est quasiment inévitable, c'est mathématique. Par contre, c'est le sans salarié, quoi, enfin zéro salarié. Parce que finalement, donc t'exclus pas, imaginons le fait qu'à un moment donné, tu as peut-être une personne de confiance qui ne va pas être un salarié, mais un associé et qui va te permettre de démultiplier ton temps, ou c'est vraiment zéro humain.
Ah non, c'est pas zéro humain. Des associés, j'en ai déjà eu et j'en aurai certainement par
D'accord,
la suite.
Okay.
Encore une fois, quand tu crées des synergies communes, t'as forcément des associés. Mais quand je dis zéro salarié, c'est parce que je veux pas avoir le poids ou en tout cas, je veux pas me poser la question si la décision que je suis en train de prendre aujourd'hui ou la décision que je prendrai demain peut impacter une personne qui est autre que moi ou ma femme. Et c'est pour ça que je préfère avoir une vision long terme, une vision globale et avoir justement une vision sur les risques et une vision sur mes questions qui fait que je suis les seuls à le prendre et il n'y a que moi qui pourrais être impacté si j'en prenais une mauvaise. Et je te dis, en tout cas, c'est ma valeur à moi. J'arrivais pas à prendre les mêmes décisions quand j'avais des salariés. Donc, c'était dans la continuité que je m'en suis débarrassé. Donc, quand je dis débarrassé, ça c'est pareil, hein, il faut pas croire que je les ai mis dehors du jour au lendemain. On a trouvé des solutions, on s'est associé. Mais c'est vraiment zéro salarié avec fiche de salaire pour faire simple.
Okay.
Les seuls salariés que j'ai aujourd'hui, et c'est même pas des salariés, c'est parce qu'il y a 5 ou 6 ans, c'était un de mes objectifs, c'était de faire arrêter de travailler mes parents et qu'ils puissent prendre leur retraite donc à 55 ans. Et c'est les deux seules personnes qui ont déjà été et qui seront certainement salariés chez moi par la suite.
Extrêmement intéressant. C'est une vision super intéressante justement de voir et de comprendre que chaque personne, chaque entrepreneur a une vision, a des croyances, des envies, des convictions qui sont différentes. Ça met en lumière à chaque fois le fait qu'il n'y a pas un seul chemin pour arriver à la destination qui est celle de chacun, hein, que ce soit la liberté, la richesse ou la notoriété ou l'ensemble ou peu importe d'autres.
Exactement.
Et je trouve ça fascinant et c'est ça aussi l'entrepreneuriat et la vie finalement. On parlait tout à l'heure de réseau. Ton activité aujourd'hui repose principalement donc, sur le bouche à oreille, la recommandation. Donc, c'est plutôt bon signe. Ça dénote que tes clients sont relativement satisfaits de ce que tu fais. Et c'est capital d'avoir un système comme ça quand tu n'es pas présent sur les réseaux et que finalement, voilà, on ne peut pas te trouver directement si on ne t'a pas découvert ou si on n'a pas été recommandé. Tu parles même donc de provoquer la recommandation. Mm-hmm. Comment est-ce que tu entretiens ce bouche à oreille et comment parviens-tu à susciter activement ces recommandations de la part de tes clients? Parce que acquérir des clients, c'est une chose, mais faire en sorte que grâce à eux, tu en acquières d'autres, c'en est une autre. Et ça peut être intéressant d'avoir ton plan ou en tout cas une méthodologie que tu as mis en place potentiellement si tu l'as... Si tu l'as structuré.
Alors aujourd'hui, je pense qu'encore une fois, les gens me font facilement confiance et ils continuent de m'appeler ou en tout cas de vouloir travailler avec moi pour différentes raisons. La première, je pense que c'est la disponibilité, puisque comme tu as pu le voir et tu le verras certainement encore plus tard, je suis toujours disponible pour mes clients ou pour les personnes qui veulent me joindre, puisque moi je suis au bureau très tôt le matin, je repars très tard le soir. Donc normalement, tu arrives à me joindre assez facilement. La deuxième chose, c'est que quand je fais quelque chose, je le fais bien, si possible sur une durée plus courte que la moyenne et si possible aussi avec une valeur ajoutée beaucoup plus importante que ce que tu m'as seulement demandé de faire. Et donc, je pense que c'est ça, le fait que je sois vraiment très disponible, le fait que j'en donne plus que ce qu'on m'en demande, qui fait que les gens qui ont déjà travaillé avec moi continuent d'avoir envie de travailler avec moi, mais surtout, quand ils ont des personnes qui leur posent une question, eh ben, ils se disent que finalement, ils peuvent peut-être me mettre moi en relation puisque j'ai certainement une réponse à leur apporter. Donc, je pense que c'est vraiment le cumul de ces trois choses-là. Le premier, c'est d'avoir été correct avec tout le monde. Le deuxième, c'est d'être assez disponible et en tout cas, essayer d'être assez réactif quand on me demande quelque chose. Et le troisième, c'est d'en donner ou en tout cas d'en délivrer plus que ce qu'on m'en demande. Et le cumul des trois fait qu'aujourd'hui, quand c'est dans l'immobilier ou dans la finance en tout cas, les personnes qui me sont proches ou qui m'ont déjà été proches pensent à moi et me recommandent assez facilement. Et en fait, au début, si tu veux, c'était vraiment un axe de progression ultra important, surtout pour la société de courtage, puisque j'ai jamais fait de pub. Et encore une fois, le fait de jamais faire de pub, quand un client venait à moi, je savais il venait de la part de qui, je savais pourquoi il venait, j'avais pas besoin de me vendre. Mon tarif, c'était le sien, on m'a jamais demandé, ou en tout cas, on m'a jamais dit que j'étais trop cher. Donc c'est vraiment, je pense, sans forcément faire exprès, puisque c'est ma nature et j'essaye de rendre tout le monde heureux. Mais le fait de faire attention à chaque client, que chaque client soit important, c'est pas un numéro pour moi, ça reste vraiment un client. Quand on m'appelle, bon, sauf s'il y a 5-10 ans, et qu'on n'a rien refait depuis, j'aurais peut-être du mal à m'en souvenir, mais généralement, quand tu m'appelles et que j'ai encore ton numéro, je sais pourquoi on avait déjà été en contact, je sais ce que tu m'avais déjà demandé, je sais ce que je t'avais déjà délé, et je pense que c'est ça qui fait une grande différence aujourd'hui.
Très clair. Au départ, ton objectif, c'était simplement de remplacer ton salaire pour gagner en liberté.
Oui.
Maintenant, tu te fixes un objectif qui est beaucoup plus ambitieux, avec ces fameux 100 millions qu'on a évoqués. Comment expliques-tu cette évolution dans ton état d'esprit et qu'est-ce qui t'a poussé à viser un tel objectif ? Je te pose cette question parce que c'est un peu le quotidien et la réalité de tout entrepreneur et tout individu. Hein. En effet, pour évoluer, pour progresser, pour avancer, c'est ce qui nous stimule en tout cas la plupart d'entre nous qui écoutons ce podcast. Dans ton cas, comment tu expliques cette évolution ?
C'est ultra simple, si tu veux, et je pense que ça parle à plein de monde, alors peut-être pas à 100 millions ou même peut-être plus que 100 millions et je vous en félicite, mais c'est que quand tu deviens entrepreneur, moi la première chose, comme tu le disais, c'est que je voulais remplacer mon salaire que j'avais à l'époque, donc en 2014, en faisant quelque chose et surtout en étant totalement indépendant. J'ai réussi à le faire au bout, encore une fois, de 24-36 mois, et quand tu réussis à faire quelque chose, tu te demandes surtout ce que tu peux faire après. Donc en fait, si tu veux, ce premier palier de salaire, ça m'a permis que je pouvais le faire. Et ensuite, la vision, elle est assez simple, hein, c'est que je me suis dit, je pense pouvoir faire plus, donc pourquoi ne pas essayer de faire plus ? C'est la même vision que j'avais quand je voulais remplacer mes 2000 euros de salaire et quand je veux faire 100 millions aujourd'hui, c'est que je pense pouvoir faire plus, donc je me mentirais à moi-même et surtout, je m'en voudrais de pas en tout cas essayer. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que le remplacement du salaire il y a maintenant 10 ans et aujourd'hui un objectif à 100 millions, mais entre-temps, il y a eu plein d'autres objectifs qui sont pas que financier, comme le fait de mettre mes parents, comme je te le disais, à la retraite, comme le fait de leur acheter une voiture, comme le fait de leur acheter une maison. Enfin, il y a plein de choses qui font que, encore une fois, je pense pas qu'on ait forcément besoin de beaucoup, beaucoup d'argent pour être heureux. Mais je pense quand même que le fait d'en avoir un minimum, c'est ce qui fait que tu peux te permettre des choses dans la vie, d'offrir des choses à tes proches, d'offrir des voyages à tes proches, le fait d'offrir une maison, une voiture à tes proches. C'est tout ça qui fait que, en fait, à chaque palier que j'ai dépassé, déjà, je les ai pris les uns après les autres pour justement avoir une vision long terme, mais aussi une vision très court terme, puisque sinon, tu peux vite te perdre dans une vision trop long terme. Donc, j'ai pris tous les paliers, si tu veux, les uns après les autres. Et à chaque fois que j'en ai dépassé un, je me suis dit, pourquoi pas en voir un beaucoup plus important. Et surtout, j'ai pas envie de me mentir à moi-même, à me dire qu'aujourd'hui, je suis limité à quelque chose. Je sais que je peux faire mieux. Et c'est pour ça que d'un salaire à 2000 euros, on est passé une valorisation à 100 millions parce que je pense pouvoir le faire. Et dans tous les cas, je me vois pas arrêter sans avoir tout essayé. Donc, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui.
Magnifique. Merci pour ce partage de vision. Dernière question pour toi et merci pour tout ce que tu as pu partager dans le cadre de cet épisode. C'était vraiment un plaisir d'animer cet épisode et j'espère qu'il en a été de même pour celles et ceux qui nous ont écoutés. D'ailleurs, si c'est le cas, faites-le nous savoir encore une fois en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de streaming préférée ainsi que votre avis. On se fera un plaisir de tous les lire et partager cet épisode. On fera un article LinkedIn d'ailleurs sur cet épisode comme on le fait à chaque fois et on mettra tes liens, Anthony, Si t'es... Avec plaisir. Je sais même pas si tu es présent sur LinkedIn, tiens d'ailleurs.
Alors, je suis présent sur LinkedIn, mais c'est là pour le coup, c'est un sous-traitant qui s'occupe de gérer toute cette partie.
Parfait, parfait, parfait. Bah, au moins, le réseau sous lequel on partage, t'es présent, c'est peut-être le seul.
C'est ça. Donc, c'est, exactement.
C'est parfait. j'ai envie de te poser la dernière question du coup, que je pose à chacun de nos invités, que tu connais, j'imagine, vu que tu nous écoutes de temps en temps. Quel est le déclic qui a littéralement créé, je dirais, une transformation identitaire chez toi? Ça peut être une simple phrase, ça peut être une citation, ça peut être une situation, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif. Bref, peu importe, tu as carte blanche pour le mot de la fin.
Merci Alec, en tout cas pour cet épisode. C'était vraiment, encore une fois, un honneur puisque je ne pense pas avoir fait grand-chose dans ma vie qui fait que j'ai la chance d'être là aujourd'hui avec toi et d'être dans le même moule de tous ceux que tu as pu interviewer. C'est encore une fois un honneur et je te remercie. Maintenant, le déclic, ça fait, comme tu dis, presque ou un petit peu plus d'une heure qu'on est ensemble, mais il n'est pas très compliqué. C'est vraiment en 2014 hein, quand le directeur de l'époque m'a dit que je pourrais ne rien faire d'autre que de rester sur le chantier et de rester ouvrier. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une distorsion, si tu veux, entre mes besoins, entre mes envies et entre le fait que je voulais développer quelque chose de plus grand, certainement quelque chose de même plus grand que moi, puisque j'aimerais continuer d'aider le plus de gens possible. Donc voilà, le déclic, c'est celui-ci. Et parce que j'ai pas eu une enfance, c'est pas que c'était pas une enfance pas facile, si tu veux, j'ai manqué de rien dans mon enfance, si ce n'est d'un petit peu d'argent. Et le fait d'avoir manqué un petit peu d'argent, j'ai envie que toutes les personnes qui sont autour de moi n'en manquent jamais. Donc ça allait dans la continuité. Je savais que j'allais faire quelque chose de bien, je savais juste pas quand. Et donc le déclic, c'est quand cette personne-là m'a licencié. Je me suis dit que c'était finalement un déclic même de la vie. Donc je pense pas avoir de plus beau déclic que celui-ci parce que c'est de là que tout a commencé et c'est même de là qu'on en est là où on en est aujourd'hui et c'est même de là que j'en suis avec toi aujourd'hui. Et c'est pour ça que je remercie ce directeur-là. Bon, je pense pas qu'il nous écoute, mais c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui en tout cas et c'est grâce à lui que je suis là avec toi aujourd'hui.
Merci Anthony.
Merci Alec.